RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani. Tous les lundis, c'est en direct sur les 91.7 de la bande FM, 10h30. François, bonjour.
Bonjour Anto, comment ça va?
Bien et toi?
Eh bien écoute, très bien, avec du soleil, donc on va essayer
de positiver.
De positiver un petit peu.
Donc, c'est ce qui me sauve, j'ai envie de te dire.
Ouais. Heureusement qu'il y a ça. Aujourd'hui, interview Calvez, reconfinement, hein, c'est les spéciales. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Tchekal, dit président de l'Office du Tourisme Calvi Balagne, réélu récemment, gérant de la Signorie. En sa compagnie, on va essayer donc de faire un bilan de cette saison 2020, fortement impactée par le premier confinement. Et on va essayer de se projeter en 2021, si tant est que cela soit possible. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Jean-Baptiste, comment allez-vous?
Ben, très bien, je vais même, je vous remercie de me recevoir. Je vais même essayer de vous aider à positiver.
Donc on va essayer de fonctionner de manière chronologique. Le 17 mars dernier, dans son allocution, le président annonce un confinement qui durera quasiment 2 mois, donc jusqu'au 11 mai. Au-delà de l'inconnu, en tant que professionnel du tourisme, comment on reçoit l'annonce?
Bien, c'est une douche froide, bien évidemment. C'était un moment où on organisait, nous, notre saison. On avait fait nos recrutements, on se préparait, tout était prêt pour l'ouverture. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre, il faut se restructurer, repenser, mettre tous nos personnels en attente, leur expliquer qu'on ne sait pas quand on va ouvrir, mais on va certainement ouvrir, mais il n'y a pas de certitude non plus, puisqu'il y avait peu de visibilité en définitive à ce moment-là, hein. Et ça a duré quand même pas mal de temps. Donc c'était une situation assez ambiguë, inédite, hein, pour tout dire.
Alors, période clé. Effectivement, réouverture des hôtels, dans une économie tournée fortement vers le tourisme, ça fait perdre combien de mois et en termes d'activité, ça représente en perte combien?
Alors, bien évidemment, on démarre avec un mois d'avril, un mois de mai, un mois de juin à zéro, donc 100% de perte. Un mois de juillet avec beaucoup de difficultés à se mettre en place au niveau du personnel, on a pu régler assez rapidement toute la problématique. Par contre, toutes les difficultés de mise en place par les compagnies aériennes, maritimes, etc., de toute la programmation qui a compliqué les réservations, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, un mois de juillet très difficile, un mois d'août assez pas mal, disons, pas mal pour beaucoup d'entre nous, quelques difficultés pour certains, mois de septembre qui était assez prometteur, mais avec toutes les annonces zone rouge et compagnie que vous connaissez, nous a impacté toute l'arrière-saison qui aurait pu, qui était prometteuse, on va dire.
Alors concernant les aides, prêts, chômage partiel, autres soutiens débloqués par l'État, ont-elles été suffisantes? Car certains ont dénoncé une paperasserie monstre, des retards, une certaine opacité dans l'éligibilité des aides. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez?
Alors oui, les aides. Alors les aides, quand on dit des aides, il faut repréciser ce que sont ces aides. Alors il y a eu bien entendu le chômage partiel pour tous les personnels qui n'était pas possible d'embaucher, donc on a pu les garder au chômage partiel, donc ils ont pu continuer d'être salariés à peu près normalement. Concernant les aides aux entreprises, et c'est ce qui me paraît quand même le plus important, parce que faire vivre les entreprises, c'est faire vivre leurs salariés, ces aides-là, PGE, pré-garantie par l'État. Bon, pré-garantie par l'État, ce sont des aides, certes, mais ce ne sont que des prêts qui, évidemment, seront remboursés. Même s'ils sont garantis par l'État, ils sont remboursables et ils seront remboursés par les entreprises. Ce qui veut dire que si on met de côté pendant un certain temps, on met entre parenthèses toute la dette, elle va revenir comme un boomerang et j'appelle ça moi une bombe à retardement. Et au moment où ça reviendra, où il faudra payer toutes les échéances normales, plus les échéances de nouvelles de tous ces prêts etc. Je pense que on va assister à un deuxième effondrement de beaucoup d'entreprises.
Alors, post-déconfinement, au-delà du risque sanitaire afin de respecter les protocoles imposés par l'État, gel, masque, réaménagement, il y a eu des frais, des investissements, les établissements ont fait un travail conséquent, une saison qui débute donc réellement au mois de juillet, on l'a vu, un aéroport qui perd énormément de rotations, surtout au niveau des rotations étrangères, au gré des mesures sanitaires des autres pays aussi, hein, Angleterre, Suisse, Allemagne, Autriche. Fallait-il ouvrir en grand les vannes? Quand on sait qu'aujourd'hui, finalement, depuis la mi-juillet, on est sur la deuxième vague.
Moi, je pense, oui, il fallait prendre deux mesures essentielles. C'est bon, il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites à propos du Green Pass. Moi, le premier, hein, je pense que est suivi de tous les professionnels. On n'a pas compris l'enjeu du Green Pass dans la mesure où il n'était pas accompagné de mesures économiques et surtout de mesures qui visaient à accentuer les flux sur le maritime et l'aérien. Le Green Pass aujourd'hui, il a toute sa place, bien entendu, à condition que on puisse à côté et en face de ça mettre des flux et des tarifs. Des flux sur les transports et des tarifs pour pouvoir être compétitif de tout le marché domestique qui, eux, ont tiré leur épingle du jeu beaucoup mieux que nous. Il y a eu beaucoup de mauvais signaux qui ont été renvoyés à un moment bien précis. C'était le moment où il y avait un redémarrage et le déconfinement. Et je pense que nous n'étions pas au rendez-vous. On était toujours dans les problématiques de Green Pass qu'il fallait expliquer, de manque de programmation aérienne, de tous les programmes qui étaient en attente, manque de réactivité, les locations de voitures qui s'y sont mis en même temps. Donc c'est un certain nombre de manque d'attractivité de la destination qui nous a lourdement pénalisé et qui nous a fait perdre un maximum de parts de marché.
Parce qu'on a l'impression qu'en fait finalement ce Green Pass proposé par l'exécutif, il était un petit peu en balance aussi avec les professionnels, c'est-à-dire oui mais, on avait l'impression qu'il y avait un oui mais au fait.
Oui, c'est forcément un oui mais. Le Green Pass aujourd'hui avec tout le recul que nous avons, sécuriser une destination, la rendre sécure, communiquer sur une destination qui est safe, c'est une très très bonne chose. Les gens déjà pour nous qui accueillons les touristes, pour la population et même pour les gens qui voyagent, il me paraît essentiel qu'ils puissent arriver dans de très bonnes conditions de sécurité. Et donc, c'est la contrepartie, c'est-à-dire mettre en face des transports adéquats, compétitifs, avec une programmation accrue, beaucoup plus accrue qu'habituellement, c'est ce que nous n'avons pas eu, et surtout des tarifs. Parce qu'aujourd'hui, si on veut résumer l'attractivité de la destination, si tant est qu'on veuille admettre que ce soit une destination, parce que là encore, c'est tout un enjeu politique, je dirais que c'est transport.
Alors je vais le dire avec toute liberté, puisque lors des municipales, les trois listes étaient plus ou moins d'accord sur ce sujet-là, comme quoi la destination ou la marque Calvi plus ou moins se dépréciait. Le constat a été tiré et tout. Et c'est vrai que le nœud du problème, c'est plus ou moins cet aéroport, l'aéroport de Calvi. Problème que vous aviez un temps soulevé via l'association collégiale de l'hôtellerie, la restauration et des plagistes Balana, où au fait il y avait des problèmes d'OSP sur les bords à bord. Il y avait des problèmes de DSP qui arrivaient soit tardivement, soit qui n'étaient pas assez compétitives ou soit pas assez importantes. Donc, on va dire qu'à Calvi, plus ou moins, c'est un problème qui est récurrent. Il n'aura pas fallu attendre la pandémie non plus pour s'en rendre compte.
Oui, c'est une problématique qui dure, accentuée par la pandémie, bien entendu. On le fait valoir depuis un certain nombre d'années, je dirais. La desserte de notre aéroport n'est pas convenable. Elle est hyper restrictive, d'une part, restrictive par la DSP, évidemment, puisqu'on est en situation de monopole sur le Paris Orly. aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus rester longtemps dans cette situation-là. Je pense qu'il faut déverrouiller la DSP, il faut trouver des solutions, il faut étudier des pistes. Il faut peut-être la faire à deux vitesses, peut-être une DSP sur la période hivernale et ouvrir complètement la concurrence sur la période estivale. Il faut peut-être la supprimer carrément. Mais en tout cas, c'est une réflexion que l'on propose depuis déjà longtemps. Et qui n'aboutit pas et qui n'est pas prise en compte malheureusement. La deuxième problématique, c'est bien entendu toutes les compagnies low cost qu'on a du mal à faire venir sur notre plateforme. Alors bien sûr pour des raisons que tout le monde aujourd'hui connaît. Essentiellement, c'est la position géographique de notre aéroport qui permet pas et qui facilite pas les choses. Bon, toujours est-il qu'on a quand même évaluer un certain nombre de et identifier un certain nombre de problèmes qu'on a fait remonter et il existe des solutions, il faut qu'elles soient prises en compte, notamment permettre de prendre en compte le coût financier des déroutements des compagnies low cost sur Bastia lorsqu'il y a de mauvaises conditions météorologiques pour que ces compagnies puissent être incitées à continuer de programmer l'aéroport de Calvi. Cette prise en compte a été bien reçue par la Chambre de commerce. Pour l'instant, on attend toujours des réponses de l'Office et de l'Office des Transports, mais surtout de la collectivité de Corse. Et on espère bien qu'à un moment ou à un autre, ça sera pris en compte et qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse développer cet aéroport comme il se doit. C'est une destination, la Baleine est une vraie destination touristique au sein de la destination Corse, autant que l'extrême sud. Et je pense que à ce titre-là, on mérite un peu plus d'égards.
Oui, parce qu'historiquement, donc déjà, on va dire au niveau de l'aéroport, on n'a pas été trop suivi sur la fermeture d'Air France en 2017. 2019, ce qui avait été retiré, c'est que 12% de perte en général de fréquentation.
C'est ça.
Donc ça s'accumule finalement un petit peu d'année en année. Et finalement, c'est peut-être le combat du futur post-pandémie.
Bien sûr, tout à fait. La pandémie n'est venue qu'accentuer. Le problème existe déjà depuis toujours. Hein, on a vu l'aéroport de Figari qui a décollé. Il a décollé essentiellement avec toute la mise en place et la venue des compagnies low cost. Et nous avons stagné complètement au moment où eux ont décollé. Donc il y a vraiment deux sujets. Il y a la DSP qu'il faut modifier et favoriser la compagnie la venue des compagnies low cost sur notre plateforme Calvi Baleine.
Alors pour en revenir sur la fin de cette saison, donc reconfinement, hausse des tests, hausse des cas à partir de mi-juillet, 30 octobre le coup près tombe. On a assisté lundi dernier à la colère des petits commerçants devant la sous-préfecture. Quels peuvent être aujourd'hui, avec ce deuxième coup de massue, les projections sur 2021 en fait?
Ben, je dirais que très peu de visibilité, et puis ça n'a échappé à personne. Hein. On va de rebond en rebond, on va de confinement en déconfinement, et chaque fois qu'il y a un déconfinement, on peut s'imaginer que derrière il y aura un reconfinement qui impacte lourdement, alors bien entendu, l'ensemble des commerçants, mais d'autant plus les petits commerces qui souffrent beaucoup plus que les autres. Alors, bien évidemment, il y a certainement des solutions aussi, puisque on laisse faire les ventes à emporter, on le voit un peu partout, s'organiser les commerçants pour qu'ils puissent faire une sorte de vente à emporter devant leur commerce. Donc, je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus simples à trouver. Peut-être laisser les petits commerces continuer d'exercer avec des mesures sanitaires beaucoup plus renforcées. Ça me semble être une des solutions. Peut-être une personne à la fois dans chaque commerce, etc., qui puisse ne pas éteindre la lumière.
Alors sur les scénarios, plus ou moins, moi j'ai essayé de faire une projection. Il y en a un très positif, c'est-à-dire que On va dire qu'à partir de mars, on n'entendrait plus parler de la pandémie. Il y en a un où on accumule plus ou moins les creux, les vagues, les unes derrière les autres, et une noire, c'est-à-dire que on aurait un confinement pendant l'été 2021. À savoir qu'en plus, en termes aéroportuaires, nous, ou portuaires, puisqu'il y a aussi le port d'Irkous à intégrer, on peut pas se permettre une deuxième saison 2021 catastrophique.
Non, ça c'est une évidence. Déjà, celle-ci, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle aura des effets pervers à moyen long terme, disons plutôt à moyen terme. Ça sera, je pense qu'on aura des retours de flamme importants si par-dessus on rajoute une mauvaise saison. On est sorti d'une saison 2019 avec moins, je crois, 10-12%, une saison 2020 avec pour les meilleurs moins 50%. Si on avec tout ça cumulé, on attaque une nouvelle saison 2021 disons qui se déroulerait dans des conditions peu habituelles, je pense que c'est un échec total. On ira vers un effondrement de beaucoup de nos entreprises.
On parle souvent du monde d'après. Alors on a pendant le confinement, on pensait qu'après tout irait mieux, les gens seraient plus raisonnables, les gens seraient plus éco-responsables. Dans les faits, ça s'est pas nécessairement vérifié. Là, ce deuxième coup de semonce, on a l'impression que les gens ouvrent un petit peu plus les yeux. Il y a ce combat contre plus ou moins Amazon, toutes ces plateformes de distribution que les petits commerçants dénoncent. Est-ce que aussi au niveau du tourisme, il y aura une prise en compte de tout ça à prendre, d'être un peu plus responsable? On a vu que en 2019, la première fois de l'histoire, les locations privées sont passées devant les locations professionnelles. Est-ce que là aussi, il y a une régulation à avoir? Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir permettre un tourisme un peu plus responsable?
Oui, je pense que le maître mot, c'est un tourisme durable. Durable sous toutes ses formes, hein, au niveau des professionnels, au niveau des établissements, au niveau des transports. On pourrait même parler des transports durables. Là aussi, quand on fait basculer des gens sur Bastia pour les faire revenir par la route sur Calvi ou sur la Balagne, excusez-moi, mais on peut plus parler de durabilité. C'est pas possible. Transport durable, c'est on va sur les circuits les plus courts. Donc accueillir les gens qui ont décidé de venir en Balagne, il faut les faire poser en Balagne ou arriver sur les ports de Balagne et non pas les faire passer par Bastia. Donc là, on doit pouvoir mettre tout en œuvre pour que ça puisse s'organiser de la sorte. C'est un exemple, mais c'est un exemple flagrant. Ensuite, bien entendu, dans nos établissements, je pense que de plus en plus de professionnels se sont mis à la page de l'hôtellerie durable, puisqu'ils ont tous, beaucoup d'entre nous sont adhérents et puis on participe à des labels d'hôtellerie durable. Donc ça fonctionne, disons, plutôt bien. Ensuite, bien entendu, il faut aussi qu'au niveau des communes, qu'on puisse mettre en avant tout ce qui est circuit court, tout ce qui est écologique, tout ce qui est biodiversité. Et je pense que de plus en plus la population, les gens, les dirigeants en ont conscience et commencent à mettre des programmes en œuvre.
Parce que là, c'est un peu le travail de l'Office du tourisme. On parle, ça fait longtemps qu'on entend parler d'allonger la saison, en fait. Et quelles sont les mesures qui pourraient être mises en place afin d'arriver enfin définitivement à allonger la saison qui s'est réduite comme peau de chagrin, en fait, qui est de 14 juillet au 15 août avec ce petit ensoleillement de Calvi on the Rocks au niveau local. Quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir définitivement l'allonger?
Moi, je reviendrai encore malheureusement sur toujours la même problématique, c'est celle des transports. Si on y met des transports adéquats, c'est-à-dire si on n'arrête pas les flux à un moment donné et qu'on baisse pas les tarifs, on aura du mal à étaler les saisons. L'essentiel de l'attractivité passe par les transports et le coût des transports. C'est une évidence. Je pense que les professionnels de leur côté jouent le jeu de l'avant et de l'arrière saison en baissant leurs tarifs considérablement. On est si on voulait donner un chiffre, les baisses sont de plus de 50%. Je veux dire, on arrive à proposer des tarifs très 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 bas pour tout ce qui est hébergement, etc. Donc le grand problème, c'est d'essayer de résoudre enfin cette problématique des transports. On sait que c'est l'enjeu, on le voit à travers tous les pays qui font du tourisme, tous les pays qui jouent la mobilité. Nous, en plus, on a le handicap, mais qui peut être un avantage, de l'insularité. Donc ici plus qu'ailleurs, on doit avoir des transports cohérents et compétitifs par rapport aux autres destinations touristiques.
Est-ce que ça peut être aussi la mise en place d'événements? On a perdu le Festival du Vent, alors beaucoup s'en plaignaient à l'époque. Et finalement, au mois d'octobre, il y avait du monde qui s'adrainait du monde.
Complètement, bien entendu. Et on avait même imaginé, on avait travaillé sur le sujet de faire un événement sur la biodiversité. Ensuite, bien entendu, les élections, plus Covid, plus tout ça, nous a pas permis d'aller plus en avant. Mais c'est un sujet qui reste toujours sur la table. Et je pense que des événements de ce type-là ont toute leur place. Et jalonner la saison depuis le début jusqu'à la fin par des événements forts, porteurs, je pense que c'est évidemment la bonne solution.
Dernière question. La Balagne est passée quatrième, presque cinquième région visitée de Corse, alors que dans les années, vous les avez sûrement mieux connus que moi, dans les années 80, c'était le fer de lance, et Calvi en particulier, de la Corse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, lorsqu'on dit, alors, je pense qu'il y a une petite nuance quand même qu'il faut relever. Lorsqu'on dit les plus visités, si on prend Bonifacio, je pense que c'est la ville la plus visitée, mais c'est pas la ville où on séjourne le plus visité, parce qu'effectivement, dans les statistiques, entre tous les bus qui viennent y passer la journée, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est les villes où l'on séjourne le plus. Celles qui sont, je pense, qui ont des retombées économiques beaucoup plus importantes. Est-ce qu'on a perdu un peu d'attractivité? Oui, on a perdu un certain nombre d'événements et de structures, comme une des plus grosses discothèques, plus quelques événements, vous en parliez tout à l'heure, qui apportait un peu plus d'attractivité à notre cité. Donc, effectivement, il faut relever le défi. Il faut relever le défi, comme on le disait tout à l'heure, en créant de l'événementiel, en créant de beaux événements pour pouvoir communiquer dessus et puis reprendre un peu d'attractivité. Et puis, je pense qu'il faut travailler sur le port d'Île-Rousse et l'aéroport de Calvi-Balagne, pour faire en sorte qu'ils puissent participer à l'attractivité. Voilà, moi je résumerai à ça. Et puis ensuite, je sais que, puisque j'en fais partie, c'est une petite parenthèse, on a un certain nombre de projets sur la ville de Calvi. Si on arrive à les mettre en place et à trouver les bons financements, je pense que ça va participer activement à l'attractivité de la cité.
Donc, un travail de privé, c'est-à-dire dans le sens où des personnes qui s'investiraient dans des événements particuliers, et aussi un travail peut-être via l'association des maires de Balagne, qui pourrait influer peut-être sur l'activité du port ou de l'aéroport.
Moi, je pense, oui, les élus de Balagne ont toute leur place pour influer sur le devenir du port et de l'aéroport. Ils peuvent se mobiliser. Moi, je les incite et j'appelle à ce qu'ils se mobilisent, parce que c'est vraiment les deux portes d'entrée essentielles de notre destination. Et sans ça, bien évidemment, on sera lourdement impacté si on fait pas le nécessaire. Et il y a un travail à effectuer. Je pense que c'est un travail des professionnels, mais les professionnels doivent être aidés par les élus, et les élus de toute la Balagne.
Et dernière question. En tant que professionnel de l'hôtellerie, vous l'aviez relevé à un moment avec l'association collégiale de l'hôtellerie, Booking qui est considéré comme
comme le mal.
Comme certains, oui, voilà, comme le mal absolu, un peu comme Amazon auprès des petits commerçants, c'est-à-dire cette plateforme qui prend tant de pourcents juste pour mettre en avant des hôtels. Est-ce que au niveau insulaire, on peut vraiment ne pas se passer de Booking?
Ah, ça me paraît difficile de se passer de Booking aujourd'hui. Pour être honnête, c'est un outil. Alors, quand on dit ils mettent en situation un certain nombre d'éléments et puis ils prennent 17%, non, ils mettent des milliards qu'ils mettent en place pour avoir pour être en tête des référencements. Enfin, il y a tout un travail derrière qui font que c'est une plateforme hyper dynamique, planétaire, et qu'il est difficile de concurrencer. Se passer d'elle, ça me paraît difficile. L'utiliser, c'est la meilleure des solutions.
Un retrait massif de l'ensemble des hôteliers Calvet, par exemple, ce serait envisageable?
Alors, d'abord, ça serait utopique, mais imaginons qu'on puisse le faire. On se priverait de toute la dynamique de Booking à travers le monde. Aujourd'hui, si on prend un Japonais, un Américain qui veut voyager, il va sur Booking, et puis il a toutes les informations qu'il veut à la seconde, il appuie un clic, deux clics, il a toutes ses réservations qui sont faites, et il s'embête pas. Je veux dire, c'est un mode de fonctionnement aujourd'hui qui me paraît incontournable. Après, de quelle manière il faut l'utiliser? Ben, il faut l'utiliser pour ce qu'elle est, pour la visibilité que Booking a. Donc il faut l'utiliser pouvoir de manière astucieuse diminuer les commissions que l'on paye en mettant des tarifs plus chers sur Booking et moins chers en vente directe, par exemple. Donc l'internaute a deux possibilités. Lorsqu'il passe par Booking, ben, il va toujours voir l'hôtel sur le site en général, etc. Il voit que sur l'hôtel, il peut avoir le meilleur tarif garanti en passant en direct. C'est une façon d'utiliser Booking, c'est-à-dire de l'utiliser pour ce qu'il est, mais de récupérer ensuite le client en direct. Il y a plusieurs petites choses que déjà les professionnels font beaucoup. Je pense que c'est la solution de vouloir se passer de Booking. Certains ont essayé, des grosses entreprises, des grosses sociétés, des grosses boîtes ont essayé de monter leur propre réseau de distribution pour concurrencer Booking. Ils n'y sont pas parvenus et ils ont investi et englouti beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense par exemple au groupe Accor.
Jean-Baptiste Tchekali, merci de nous avoir un peu éclairé sur l'impact des confinements sur le tourisme. Je vous souhaite une bonne journée. Et en souhaitant que la saison 2021 soit un peu plus rayonnante.
Merci de m'avoir reçu. Et oui, en tout cas, il faut surtout pas baisser les bras, se protéger, bien évidemment, essayer d'aller de l'avant. Je pense être très solidaire sur les sujets qui nous intéressent en balade. Et je pense qu'on pourrait arriver à des résultats.
Quant à nous, on s'entend la semaine prochaine, lundi 10h30. Donc normalement, ce sera peut-être un duo. Donc pour l'instant, j'annonce rien. Bien. Et je souhaite un bon anniversaire. C'est les 10 ans de mon fils. Donc je souhaite un bon anniversaire à mon fils. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.
Merci François. Et bon anniversaire Alex.